journal vous est présenté par Clarence Rodriguez.
17h59 et exactement 18h, le journal Clarence Rodriguez. Bonsoir Clarence.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Plusieurs milliers de personnes sont actuellement massées devant les Invalides à Paris pour un dernier adieu à Jacques Chirac. La dépouille de l'ancien président de la République est exposée dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Avant un hommage national demain, nous irons sur place dans ce journal rejoindre notre reporter Hugo Lanoé. Au cours d'un déplacement aujourd'hui à Guidel, dans le Morbihan, pour conclure le congrès de rentrée du Modem, Édouard Philippe a ouvert son discours en évoquant la situation de l'usine Lubrizol. Le Premier ministre réaffirme la transparence complète du gouvernement. Près de 20 000 personnes rassemblées aujourd'hui à Moscou pour protester contre la répression policière du mouvement de contestation lancé à la mi-juillet contre le Kremlin. Plusieurs manifestants ont été arrêtés depuis 2 mois. Nous irons à Moscou dans ce journal. Des larmes, des roses, des pommes et de la pluie. Plusieurs milliers de personnes sont actuellement massées devant les Invalides à Paris. Certains Français sont postés sur place depuis tôt ce matin pour un dernier adieu à Jacques Chirac. La dépouille de l'ancien président de la République est exposée dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides depuis 14h. Avant un hommage national demain, cette cérémonie populaire s'est déroulée sous les yeux de Claude Chirac, la fille de l'ancien président, de son fils Martin et de son époux Frédéric Salabarou, mais sans Bernadette Chirac affaiblie. Hugo Lanoé, bonsoir. Vous êtes sur place. Alors, quelle est l'ambiance en ce moment? Il y a toujours autant de monde?
Eh oui, Clarence, pour vous donner une idée, la file d'attente pour entrer dans l'édifice s'étend sur plusieurs centaines de mètres de l'esplanade des Invalides jusqu'à l'avenue de la Motte-Piquet. L'image est impressionnante et malgré la pluie qui a certes cessé de tomber, les Français venus en nombre ne se découragent pas. Bien au contraire, ils sont des milliers à se succéder depuis le début de l'après-midi. J'ai pu discuter avec un couple originaire du Mans, venu exprès pour l'occasion, accompagné de leur famille. Ils ont patienté plusieurs heures avant de pouvoir s'incliner devant la dépouille de Jacques Chirac, un grand président, un grand homme, simple et humain. Cette cérémonie populaire, m'ont-ils dit, est à l'image de celui qui a été également maire de Paris de 1977 à 1995. D'autres viennent seuls pour se recueillir à l'image de Dominique, pancarte à la main, avec ce message connu de tous, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, extrait du discours de Jacques Chirac lors du 4e sommet de la Terre de l'ONU à Johannesburg en 2002. Ce qui frappe également, Clarence, c'est la diversité, jeunes et moins jeunes, anonymes et officiels, une grande mixité sociale, tous réunis pour honorer une dernière fois le 5e président de la 5e République qui leur rend l'appareil avec cette photo affichée à l'entrée des Invalides. On voit Jacques Chirac, sourire aux lèvres, la main en l'air, saluant cette foule de citoyens. Les Invalides resteront ouverts autant que nécessaire jusqu'au bout de la nuit pour ce dernier hommage populaire avant, comme vous le savez, un hommage national prévu demain.
Merci Hugo Lanoé. Et vous disiez il y a un instant, il y a des milliers de personnes qui continuent d'affluer pour s'incliner devant la dépouille de l'ancien président de la République. Pour être parmi les premiers à accéder à la cour, certains Français sont même arrivés dès le petit matin, signe s'il en est de la popularité de Jacques Chirac. Mais pour Pascal Perrineau, politologue au CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique française, les Français regrettent davantage une époque qu'un chef d'État.
Il y a un chiracisme d'opinion extrêmement fort. Mais je crois qu'au-delà de la personnalité de Jacques Chirac, les Français honorent la période qu'il a représentée. Il y a une nostalgie qui s'exprime dans la popularité. Et là, je crois qu'au fond, que Jacques Chirac est emblématique des années 70, qui sont les années véritablement de sa percée politique. Et les jeunes, en soutenant fortement la mémoire du président Chirac, au fond, expriment leur fascination pour cette période des années 70, qui était les périodes d'une France qui ne connaissait pas encore la crise. Puis, il y a même un côté vintage dans cet attrait des jeunes. Jacques Chirac était dans son verbe, dans ce qu'il était, dans la manière dont il s'habillait, dans les voitures qu'il conduisait, était tout à fait emblématique de ces années 70. Il ne faut pas oublier aussi que Jacques Chirac a été le président des Français pendant 12 années.
Et pour prolonger cette actualité, Frédéric Martel, votre invité ce soir est Jean-Jacques Ayagon.
Voilà, Jean-Jacques Ayagon qui a été son conseiller, son directeur des affaires culturelles à la ville de Paris et son ministre de la Culture.
À tout à l'heure. Les opérations de nettoyage se poursuivent dans les écoles de l'agglomération rouennaise, fermées après l'incendie de l'usine Lubrizol. La liste définitive des établissements fermés lundi devrait être publiée ce dimanche soir. Au total, 237 écoles ont été fermées dans l'agglomération de Rouen au plus fort de la crise, soit 55 000 élèves concernés. Seules celles qui ont été nettoyées parmi ces écoles fermées pourront rouvrir demain, martèle la rectrice de l'Académie de Rouen, Christine Gavini-Chevet.
Aujourd'hui, la décision, bien sûr, que nous prenons, c'est d'ouvrir l'ensemble des sites scolaires qui aura été parfaitement nettoyé. Donc nous nous serons assurés ce soir que le nettoyage a été bien réalisé et qu'il sera réalisé demain matin à l'entrée des élèves. Ça, c'est la décision qui est prise. Si nous décelons encore une présence de suie dans un établissement, il est bien évident que nous ne l'ouvrirons pas. Par précaution, s'agissant d'élèves, donc d'enfants, parfois en bas âge, nous ne pouvons pas les exposer à des traces de suie. Par ailleurs, nous mobilisons une équipe de santé que nous sommes en train de constituer, qui va composée de médecins de l'éducation nationale et qui va avoir à cœur d'aller au-devant des élèves, au-devant de tous les sites scolaires, pour vérifier évidemment que toutes les situations sont bien maîtrisées, qu'il n'y a pas des élèves qui se sentent fragilisés ou qui aient des difficultés, et donc avoir un relais médical dès lundi.
En déplacement dans le Morbihan à l'université du Modem, Édouard Philippe a promis, je le cite, de transmettre toutes les analyses de la pollution engendrée par l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, alors que l'inquiétude était toujours de mise en Normandie et jusque dans les Hauts-de-France. Et le Premier ministre de rappeler que pour faire face à l'inquiétude légitime des populations, il n'y a qu'une solution, le sérieux et la transparence complète et totale. Près de 20 000 personnes rassemblées aujourd'hui à Moscou pour protester contre la répression policière du mouvement de contestation lancé à la mi-juillet contre le Kremlin. Plusieurs manifestants ont été arrêtés depuis 2 mois et certains ont même été condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 4 ans. Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou, revient sur la manifestation de cet après-midi.
3 semaines après la tenue des élections locales, la mobilisation des moscovites est moins marquée que durant l'été, mais cela ne semble pas avoir d'emprise sur les plus motivés des manifestants. Tous sont venus pour signifier leur solidarité aux manifestants de l'été qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à plusieurs années de colonies pénitentiaires ou à ceux qui sont en passe de l'être, comme l'explique Masha, 19 ans.
Il est très important de défendre maintenant les prisonniers politiques qui sont incarcérés. Ils ont été arrêtés dans des affaires fabriquées, ce n'est pas juste. Il n'y a pas eu d'émeute massive le 27 juillet et ces personnes sont en prison afin que le gouvernement fasse pression sur nous. Et pour nous, c'est très important de les soutenir.
Sous la pression populaire exprimée sur les réseaux sociaux, la justice a décidé de reconsidérer les accusations portées contre plusieurs personnes encore incarcérées ou assignées à résidence après les manifestations de l'été, comme l'acteur Pavel Ustinov. Une avancée sensible qu'il est encore difficile d'interpréter comme une inflexion des autorités. Mais pour Elena, 58 ans, l'essentiel est ailleurs.
Pour moi, le plus important n'est pas que le pouvoir change. Il est important que quelque chose change en moi et chez les gens qui sont à côté de moi. Je pense que le fait que les gens viennent ici, c'est la preuve qu'ils changent. Et je pense que s'ils changent, le pouvoir n'aura pas d'autre choix que de changer aussi.
Autorisée par les autorités, cette manifestation s'est déroulée dans le calme et n'a pas connu de débordement.
6 400 000 Autrichiens appelés aux urnes ce dimanche pour tourner la page d'une crise politique retentissante qui a coûté à l'extrême droite sa place au gouvernement, mais laisse le conservateur Sébastien Kurz en position de force pour reconquérir le pouvoir. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Vienne, hein, vous avez suivi donc pour nous cette élection. Avez-vous déjà des résultats ?
Oui, une victoire éclatante des conservateurs ce soir, menée par Sébastien Kurz. Plus de 37% des suffrages. Résultat encore provisoire, mais supérieur à ce qu'annonçaient les sondages. Voilà qui donne à l'ex-futur chancelier les coups des franges pour négocier. Mais avec qui ? Eh bien, peut-être plus d'ores et déjà avec l'extrême droite, le FPE qui s'effondre. 16% seulement des suffrages, moins 10 points par rapport aux dernières législatives. Les électeurs se sont détournés d'un parti qui promettait de nettoyer le paysage politique et qui, au contraire, est plongé dans les affaires, corruption, détournement de fonds. L'extrême droite doit se refonder, a immédiatement reconnu son secrétaire général et elle n'a pas le mandat pour entrer dans un nouveau gouvernement. Déclaration importante de lui-même, le FPE pourrait se retirer de la course.
Et c'est donc vers les écologistes que Sébastien Kurz pourrait se retourner.
Et oui, les Grünen, autres grands gagnants du scrutin à l'issue d'une campagne dominée par l'enjeu climatique. Ils sont pour leur crédité de 14% des voix, 10 points de plus que lors des dernières législatives. Devancés certes par les sociaux-démocrates, mais ces derniers perdent 5 points. Et les commentateurs ici parient déjà sur une coalition des gagnants, conservateurs, écologistes et libéraux du parti Neos, d'ores et déjà candidats pour participer au gouvernement. Alors il faut encore que ces résultats soient confirmés et puis les tractations vont être longues, hein, tant notamment les divergences sont importantes entre les conservateurs et les Verts sur l'environnement et l'immigration. Mais ces premiers résultats tiennent la promesse faite par le présentateur de la principale télé autrichienne peu avant 17h. Des chamboulements importants, disait-il, conseillant aux téléspectateurs de s'asseoir pour ne pas tomber de leur chaise.
Merci Louise Baudet, en direct de Vienne. Enfin, un mot du temps pour demain, marqué par une nouvelle perturbation de la façade atlantique vers le Jura et Rhône-Alpes, des brumes dans le pays de la Loire vers la région centre, des pieds des Pyrénées vers la Grande Bleue. Le ciel est plus lumineux, sauf du Gard vers la Camargue, où des brouillards perdurent par endroits jusqu'en milieu de matinée. Des rafales de vent jusqu'à 70 km à l'heure en Corse, en Bretagne et la Manche. Les températures varieront de 22 à 29 degrés sur le tiers sud du pays, de 18 à 22 degrés sur le nord du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau.